France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et c'est un nouveau coup dur pour la première ministre britannique Theresa May qui a perdu sa voix hier à 17 jours de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne devant le Parlement. Les députés britanniques ont rejeté son accord de Brexit pour la deuxième fois. Un rejet à 391 voix contre 242. L'Union européenne s'est dite prête à examiner une nouvelle demande de la part de Londres pour un report du Brexit au-delà du 29 mars prochain. En Australie, le cardinal George Pell a été condamné à 6 ans de prison pour pédophilie, condamné pour avoir agressé 2 enfants de cœur à Melbourne entre 96 et 97. Il est à ce jour le plus haut responsable de l'Église catholique reconnu coupable de viol sur mineurs. Nous reviendrons sur l'audience de cette nuit dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, zoom sur ces pays qui ont décidé de ne plus faire voler de Boeing 737 MAX. La Chine, l'Indonésie, Singapour, mais également les pays de l'Union européenne, et ce après le nouveau crash d'un de ces appareils dimanche en Éthiopie. L'Europe donc, la Chine mais également l'Inde, les Boeing 737 n'ont plus le droit de survoler ces espaces aériens. Les États-Unis, eux, refusent de se rallier à cette interdiction. Boeing, rappelons-le, est un constructeur américain. Il a reçu hier encore le soutien du président américain Donald Trump. L'actualité en France plus particulièrement maintenant est cette adoption attendue de la loi dite anti-casseurs. Le Sénat a donné son accord hier soir, sans passer donc par une seconde lecture. Des députés de gauche ainsi que le président de la République Emmanuel Macron vont saisir le Conseil constitutionnel à propos de cette loi. Amnesty International dénonce un coup dur porté au droit de manifester pacifiquement en France. Et puis là, c'est un coup d'arrêt de la justice au projet Europa City. Le tribunal administratif de Pontoise a annulé hier le plan local d'urbanisme approuvé à Gonesse par le conseil municipal dans le Val d'Oise. Ce plan local d'urbanisme prévoyait l'urbanisation d'une vaste zone agricole au nord de Paris pour créer un parc de commerce et de loisirs. Il est donc annulé.
Radio France, partenaire du salon Livre Paris du 15 au 18 mars. Venez rencontrer quelques grandes voix de la radio pour la signature de leurs livres sur le stand des éditions Radio France. Bernard Thomasson, Thierry Marx, Guillaume Gallienne, Valère Coréard, Dominique Seux, Adèle Vendrette, Mishka Assayas et bien d'autres rendez-vous. Renseignements sur édition.radiofrance.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Parmi les films qui sortent en exclusivité au cinéma aujourd'hui, mercredi 13 mars, on a retenu Les Témoins de Lansdorf du réalisateur israélien Amichai Greenberg. C'est un film qui traite d'un sujet historique, la mémoire de la Shoah. C'est aussi un film sur les origines, mais qui se présente sous la forme d'un thriller haletant. Amichai Greenberg est mon invité ce matin. Le Réveil culturel est une émission préparée avec Sophie-Catherine Gallet à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et Cédric Chacus ce matin à la prise de son.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Amichai Greenberg.
Bonjour, shalom.
Voilà, et vos propos, puisque vous allez parler en hébreu ce matin, vos propos seront traduits par Margit Lipsker. Alors, on va parler de votre film qui sort aujourd'hui. C'est un sujet des plus délicats, la Shoah, d'ailleurs si peu traité par le cinéma israélien. Donc, dans votre film, Les Témoins de Lansdorf, le héros est un historien qui enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lansdorf, en Autriche, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une vraie course contre la montre, car les autorités du village lui font savoir que, faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné. Va-t-il pouvoir trouver un témoin de ce massacre? Va-t-il savoir où se trouve exactement la fosse où furent enterrés les juifs assassinés par les nazis avant la fin de l'ultimatum donné par les autorités du village? C'est ce ressort dramaturgique qui fait que votre film est un thriller, hein. J'en parlais en préambule. Alors, vous êtes le réalisateur de ce film, Les Témoins de Lansdorf, Amichai Greenberg. Avant de parler du style, de la forme, évoquons le fond. Est-ce que cette histoire est basée sur un fait réel?
Ken,
oui, effectivement.
Le film
s'ouvre en fait... il est inspiré par un événement réel qui s'est passé.
En Autriche?
Oui, cette histoire s'est passée dans une petite ville autrichienne du nom de Rechnitz. Et la grande différence par rapport au film, c'est qu'à Rechnitz, on n'a jamais trouvé la fosse commune.
I give you 1 week to submit all new evidence.
Wie soll ich denn die ganze Liste mit Namen durchgehen bis nächste Woche?
מה אתה מציע?
למצוא את הקבר.
איפה ראית את הרצח? את היית במקום.
סוף כבר את השטויות שיש לך בראש.
Sie sind der einzige Zeuge, den ich habe.
אז אין מה נלחמנו.
אנחנו נלחמים להנציח את זכר השואה.
Les témoins de Lansdorf, c'est le film d'Amichai Greenberg qui sort aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est l'histoire d'un homme, un chercheur, un historien pour être précis, chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah, qui va être confronté à des autorités qui lui donnent très peu de temps pour prouver qu'il y a eu dans ce village autrichien, Lansdorf, un massacre de juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il doit retrouver donc les derniers témoins et surtout l'emplacement de ce lieu très précisément où ont été enterrés ces juifs assassinés. Alors vous dites à Amichai Greenberg qu'on n'a jamais retrouvé dans la réalité ce lieu et que vous êtes passé à la fiction. Qu'en est-il de ce fait réel avant de parler de votre film et de comment vous êtes inspiré de ce fait réel pour passer à la fiction?
Ok, c'est la même.
Votre question est intéressante. Je vais commencer par la fin. Deux mois après que ce film soit sorti à Venise, on a commencé en Autriche à faire des recherches officielles. Le gouvernement autrichien les a entamées. Et il y a deux semaines, lors d'un dîner à la présidence israélienne, j'ai rencontré le président autrichien et je sais que dans deux semaines, au mois de mars, on va recommencer les recherches en Autriche. Voilà, donc là, il y a déjà un lien entre le film et la réalité. Et le film peut avoir une influence sur la réalité.
Dans le film, on montre bien que les témoins de ce massacre ont été éliminés pour qu'ils ne puissent pas témoigner de ce fait. Est-ce que ça, par exemple, c'est réel ou c'est quelque chose qui appartient à votre scénario, à votre fiction qui part d'un fait réel, Amichai Greenberg?
Oui,
c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait arrivé. Dans la réalité, les témoins ont été assassinés. L'un des survivants du massacre et l'autre, l'Autrichien qui avait distribué les armes pour perpétrer ce massacre. Les deux ont été assassinés après la guerre lorsqu'ils allaient témoigner. Toute la documentation a été mise dans une archive et ont été fermées pendant plus de 45 ans jusqu'à la fin des années 80. Et à ce moment-là, un juif hongrois a commencé à creuser, à rechercher les tombes, la fosse commune. Et les gens du village continuent à ne pas dire où se trouve la tombe. Il continue à être dans le déni.
Et quand vous dites le déni, ça veut dire qu'ils disent que ce massacre n'a jamais eu lieu?
Oui,
c'est intéressant, en fait. On voit les témoins du film documentaire dans le film de fiction que j'ai fait. Ils ne disent pas forcément que ça n'est pas arrivé. Ils disent « Ah oui, oui, c'était terrible. Nous-mêmes, on a beaucoup souffert pendant la guerre. Nous-mêmes, nous sommes des victimes. Mais on ne se souvient pas du tout où ça s'est passé. Alors, c'est arrivé, mais on ne sait pas où. Je ne sais pas sur quelle terre ça s'est passé. Et là, en fait, il s'agit de tout petit village où tous les habitants sont des paysans, des agriculteurs. Il est probable que les gens savent où c'est.
We ask that the freeze on the construction remains in effect until the grave is found.
אני היסטוריון.
נחתוך לפי 1944, 45.
1945, צעדות מוות, אוסטריה, לנסטורף.
Alors parlons maintenant du personnage central de votre film, Les Témoins de Lansdorf, Amichai Greenberg. Il s'agit de Yoel, donc Yoel qui va mener l'enquête en tant qu'historien, historien chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur ce massacre oublié ou étouffé dans ce village de Lansdorf en Autriche. Vous avez décidé de faire de votre personnage principal et central à la fois un homme de conscience, un homme de mémoire et un homme qui va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas celui qu'il pense être. Alors, j'ai pas envie de déflorer, bien sûr, l'intrigue de votre film, mais partons du principe que Yoel est un juif orthodoxe. Ce détail, je présume, n'est pas anodin dans votre choix. Pourquoi est-ce que vous avez insisté pour qu'il soit juif orthodoxe à Amichai Greenberg?
Il me semble que je voulais trouver un personnage, un héros, dont l'identité est basée sur une structure solide. Et en plus, moi-même, je viens d'un milieu religieux. Moi-même, j'ai grandi dans un milieu orthodoxe, religieux, et moi-même, je me sens encore lié à ce monde.
Sauf que votre barbe n'a pas l'air d'être une barbe de juif orthodoxe, elle est plutôt bobo, comme on disait encore à l'époque.
Je suis un petit peu comme Yoel, il y a eu pas mal de changements qui se sont passés dans ma vie. Mais en fait, là, c'est le processus de recherche.
Alors,
qui m'intéresse.
Dans Les Témoins donc de Lansdorf, Yoel enquête sur des massacres de juifs commis par les nazis au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, donc dans ce village autrichien. Et il va être amené à consulter des documents déclassifiés et son passé, le passé de sa mère, pour être précis, va se retrouver mêlé à ses recherches historiques. Et une fois de plus, sans vouloir déflorer l'intrigue du film, la deuxième intrigue, celle qui se rajoute à la recherche historique autour du massacre oublié, Amichai Greenberg, on a l'impression que vous mêlez les deux sujets volontairement, la Shoah, la mémoire de la Shoah, et puis l'identité juive.
Oui, bien sûr que c'est fait exprès. Je peux dire que du point de vue personnel, les deux choses sont extrêmement liées. La Shoah, vous savez, je pense que cela me permet, en tant que juif, de voir les valeurs qui me constitue. Et ce n'est pas uniquement en tant que juif cela me constitue. Je pense que cela est lié à l'humanité. Primo Levi, dans ses livres, estime que la Shoah est quelque chose qui permet de savoir ce qu'est l'homme, de quoi nous sommes faits. Lorsqu'il y a un tremblement de terre aussi, on peut voir les diverses couches qui composent la terre.
Alors, la scène la plus troublante dans votre film, Amichai Greenberg, c'est quand Yoel, donc cet historien qui porte la grosse barbe des juifs orthodoxes, se rase. Alors là, personne ne le reconnaît. Quand je dis personne, c'est ni personne dans le film, ni dans la salle. Cette scène est forte. On comprendra mieux quand on voit le film pourquoi cette scène est forte, parce que là, on revient sur le personnage principal. C'est comme si le fait historique était relégué à un second plan. C'est comme si le vrai sujet du film, c'est d'où vient votre héros, d'où vient Yoel. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez traiter, mais avec le risque de faire passer la recherche de la fosse commune du massacre commis dans le village autrichien pour secondaire.
Je pense que la recherche de la fosse commune reste extrêmement importante. Les conflits importants dans la vie sont souvent constitués de cela. On recherche quelque chose et on tombe sur autre chose et cela permet de trouver des nouvelles choses. Et en fait, l'outil, la recherche de la vérité, c'est quelque chose que Yoel utilise contre lui-même. Il veut être absolument fidèle à la vérité. Bon, on ne va pas parler de la barbe parce qu'on ne veut pas faire de spoiler.
Mais n'empêche que la question que vous posez dans votre film, c'est est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on le devient ?
Vous avez raison dans votre question. La question est de savoir est-ce que nous naissons un homme ou une femme et on reste ce que l'on est ou pas ? Moi-même, je suis très lié à la perception juive d'origine. Un homme peut être tout ce qu'il veut, cela dépend de son choix, c'est son libre arbitre et c'est son choix qui détermine les choses. Et nous, en tant que descendants de survivants de la Shoah, aussi nous avons des choix à faire. Chaque être humain a une responsabilité à prendre par rapport à ses valeurs et par rapport à son identité.
C'est votre premier long métrage, Amichai Greenberg, les témoins de Lansdorf. Diriez-vous que c'est un film qui parle d'abord de la mémoire de la Shoah ou qui parle de l'identité juive, de votre identité d'une manière très précise dans le cadre historique qu'est la Shoah?
C'est un film sur l'identité, de manière générale. Moi-même, je suis fils et petit-fils de survivants de la Shoah, et de façon naturelle, ça va vers là. Mais pour moi, c'est un film sur l'identité, notre identité aujourd'hui.
Alors, s'il fallait vous poser une question sur votre identité, Amichai Greenberg,
personnellement, je crois que je suis d'abord un être humain juif. Voilà, c'est comme ça que je me vois. Mes racines juives sont très profondes et je m'identifie avec la perception juive de base qui parle du libre arbitre, justement.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La symphonie numéro 3 de Gustav Mahler, dirigée par Leonard Bernstein en 1960 avec le Philharmonique de New York. Nous sommes avec Amichai Greenberg, réalisateur d'un film qui sort aujourd'hui, Les Témoins de Lansdorf. On a parlé donc du fond du film, on peut parler maintenant de la forme, parce que Amichai Greenberg, on va parler maintenant de la perception de votre film, Les Témoins de Lansdorf, qui sort aujourd'hui en France, comme il a été reçu en Israël. Parce qu'on l'a dit, il traite d'un sujet très grave, la Shoah, d'un autre sujet tout aussi important, l'identité juive, dans un contexte historique bien précis, celui du 20e et du 21e siècle. Et pourtant, ce film se présente comme un thriller, avec une vraie course contre la montre pour le héros principal qui doit réunir des preuves, réunir des témoins et prouver qu'il y a eu dans ce village autrichien un massacre de juifs perpétué à la veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Alors, le fait de passer à un genre cinématographique avec des ressorts cinématographiques, est-ce que cela a été bien perçu déjà par le public israélien ?
אני חושב שבגלל זה זה התקבל טוב.
Je crois que c'est justement la raison pour laquelle cela a été bien reçu et bien perçu. Parce qu'on a essayé d'avoir un nouvel angle sur un événement historique, un drame historique. En général, c'est beaucoup plus lourd la manière dont on traite de ces sujets. Et le fait d'être sous tension, en quelque sorte, a permis notamment aux jeunes de se relier plus au sujet, parce que cela les rendait curieux. Et ils ont vu le film, pas parce que le sujet est important, mais parce qu'ils étaient intéressés.
Par le thriller.
Oui,
oui, tout à fait.
Pourquoi peu de films israéliens évoquent la Shoah, d'après vous, Amichai Greenberg?
Question fort intéressante. Toute la relation que l'on a en Israël vis-à-vis de la Shoah, je ne sais pas si on le sait, c'est assez problématique aussi. Jusqu'au procès de Eichmann, les rescapés de la Shoah, les survivants de la Shoah, n'ont pas été très bien reçus en quelque sorte. Cela ne s'arrangeait pas très bien avec le narratif un petit peu héroïque de ce qu'Israël voulait construire à cette époque. Donc c'était un petit peu problématique. Bien sûr, il y a des films qui traitent de la Shoah, mais dans une certaine atmosphère. Et j'espère que cela va changer.
La mémoire de la Shoah était présente dans votre enfance, dans votre adolescence. Est-ce que vos parents, vos grands-parents vous en parlaient? Est-ce qu'il y a eu une transmission de cette histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale?
Je l'ai dit auparavant, mon père et mes grands-parents sont des rescapés de la Shoah. Et je me souviens qu'à l'âge de 3 ans, une fois, j'avais été malade pendant plusieurs semaines et ma grand-mère m'a raconté des histoires, des anecdotes de ce qu'elle a vécu à cette époque. Pour moi, c'était vraiment des aventures, c'était des histoires beaucoup plus intéressantes que ce que je pouvais voir à la télé. C'était très fort, cela m'a vraiment marqué, et cela a marqué toute ma vie. Le fait d'écouter les histoires, ça je l'ai constaté à l'âge de 25 ans peut-être, lorsque j'ai commencé à travailler pour le projet Spielberg et que j'ai fait des entretiens avec des témoins.
Pour quel projet de Spielberg?
Vous savez, Spielberg, après la liste de Schindler et après avoir vu la réception dans le monde, s'est mis à faire témoigner des dizaines de milliers de rescapés de la Shoah. Et là, en Israël aussi, nous avons interviewé des survivants. C'était un format de recherche scientifique et c'était très intéressant, très intense. Et moi-même, j'ai participé à ces interviews. Aujourd'hui, on peut voir ces interviews. Il savait qu'il fallait se rappeler de ces histoires, d'avoir, de réunir ces témoignages.
Score. Ils ont été 200 עובדי כפייה יהודים בשדות הכפר לנסדורף שבאוסטריה. תשמעו. התפקיד שלי כיהודי מאמין הוא לזכור.
אם אתה רוצה להתעסק בשואה ביזנס, אני לא אומרת לך שלא.
תזכור.
Comment ce film que vous venez de réaliser, donc Les Témoins de Lansdorf, a été coproduit avec l'Autriche?
C'était une coproduction entre l'Autriche et Israël. Et la réception que nous avons eue là-bas, l'accueil était vraiment extraordinairement bon. Toutes les équipes étaient très sympathiques. Mais bon, il y avait deux aspects de cette facette. Lorsque moi-même j'ai cherché la localisation du shooting, j'ai été dans plusieurs villages situés à peu près 70 km de Vienne, et partout il y avait des pierres, des plaques mémoriales pour la mémoire des soldats des SS et de la Wehrmacht. Et ces tombes étaient fleuries de fleurs fraîches. Et donc, c'était très difficile que là, il y a une fosse commune avec quelques centaines de victimes qui n'a jamais été retrouvée. D'autre part, eh bien, on honore là, au quotidien, la mémoire des assassins.
Amichai Greenberg, votre film sort donc aujourd'hui, Les Témoins de Lansdorf. La semaine prochaine, du 19 au 26 mars, aura lieu à Paris, au cinéma Le Majestic Passy, le festival du cinéma israélien, que vous connaissez, puisque vous avez déjà été primé l'année dernière pour ce même film, Les Témoins de Lansdorf. Et ce festival nous propose plusieurs nouveaux films. On peut aussi rappeler que le film de votre compatriote Navad Lapid a obtenu récemment l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin, avec Synonyme, film qui sort, lui, en France dans 2 semaines, le 27 mars. Alors, la cinématographie israélienne semble bien se porter, mais vous qui avez sans doute vu tous ces films qu'on va découvrir la semaine prochaine, que vont voir les spectateurs israéliens ou que propose le cinéma israélien? Est-ce que ce sont des films sur la mémoire, sur l'identité juive, comme Les Témoins de Lansdorf, ou des films personnels sur l'identité, la double culture, la double appartenance, comme le film de Navad Lapid, dont on vous dira le plus grand bien dans 2 semaines, ou d'autres films qui évoquent un peu les alliés Netanyahou, ou encore, autre thème, la paix impossible, sans partage de la terre avec les Palestiniens, à moins qu'il y ait d'autres sujets qui l'emportent en ce moment en Israël. De quoi on parle aujourd'hui dans le cinéma israélien?
Jusqu'à il y a quelques années, j'aurais dit que le genre peut-être dominant en Israël était le drame familial, les relations familiales. Là aussi, il y a des questions d'identité. Par contre, le sujet israélo-palestinien est moins à la une.
Comment vous l'expliquez qu'il est moins à la une?
Il y a eu énormément d'articles, de titres là-dessus. Et il y a là aussi un développement dans la société israélienne. La société israélienne a compris que le lien que l'on établit avec l'autre est lié à notre propre identité, au lien que nous avons avec nous-mêmes. Comment est-ce que l'on perçoit l'autre? Ça dépend de la manière dont on se perçoit soi-même.
Et puis enfin, Amichai Greenberg, pour terminer, la question que j'aurais aimé ne pas vous poser, mais comme l'actualité nous l'impose, vous qui faites l'aller-retour entre l'Europe, l'Amérique et Israël, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une montée de l'antisémitisme en Europe?
Moi, personnellement, non. Je le sens parce que je rencontre des personnes qui en parlent, et également l'atmosphère dans la rue, pour moi, elle est beaucoup moins bonne que ce que j'ai ressenti il y a quelques années quand j'étais à Paris, ou il y a quelques mois. Je crois que l'antisémitisme remonte à très loin. Et il y a là également un pan identitaire important. Alors je ne sais pas si l'antisémitisme actuel est lié aux questions d'identité que se pose le monde. Mais je vois que, par exemple, la relation aux autres, aux immigrants, tout cela joue un rôle important aujourd'hui dans le monde. Et on voit deux directions, deux orientations. D'une part, il y a un nationalisme important avec une identité nationale marquée et qui s'exprime souvent par la haine de l'autre. Et puis, il y a l'autre orientation qui dit, voilà, on est tous pareils, il n'y a aucune différence entre nous, essayons d'effacer notre identité pour qu'il n'y ait pas de distinction. Je crois que les deux voies sont mauvaises. Je crois que le monde doit aller dans un autre sens. Et c'est également quelque chose que je touche dans le film. Nous devons toucher à notre identité, mais notre identité, elle n'est pas définie par la haine de l'autre. C'est la chose la plus superflue. Nous devons essayer de creuser en nous, dans nos familles, dans nos peuples, pour savoir ce qu'il en est de nos valeurs qui nous sont importantes. Je crois que cela peut donner des résultats authentiques.
Merci beaucoup, Amichai Greenberg, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que votre film Les Témoins de Lansdorf sort aujourd'hui au cinéma. Et merci aussi à Margit Lipsker qui a traduit les propos de notre invité Amichai Greenberg.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le festival Séquence Danse. Pour sa 7e édition, le festival propose un rendez-vous autour de la danse contemporaine. Théo Mercier, Olivier Dubois, Alessandro Chiaroni, des danses et cultures urbaines en passant par la performance. Une quinzaine de créations différentes seront présentées. Festival Séquence Danse du 13 mars au 21 avril au 104 à Paris, un partenariat France Culture.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Soleil, savon, gel douche, détergent, pourquoi sommes-nous sans merci avec notre peau? On vous dira tout également sur le prodige technologique réalisé par la sonde japonaise Hayabusa qui est allée collecter de la poussière d'astéroïdes. Le 14 mars, en numérotation anglaise, c'est le 3-14, l'occasion de vous raconter l'odyssée du nombre pi. Et enfin, la science-fiction comme arme politique dans la Russie contemporaine avec l'auteur Dmitri Glukhovski en direct du salon Livre Paris. C'est le très riche programme que nous vous proposons méthodiquement tout au long de la semaine.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après l'accident d'Ethiopian Airlines qui a fait 150 morts dimanche, le modèle 737 MAX de Boeing a été banni par de nombreux pays, de la Chine à l'Union européenne. Les États-Unis résistent, vous le comprendrez, nous irons à Bruxelles et à Washington. Vous entendrez ensuite les critiques cinglantes d'une ancienne députée britannique du camp conservateur, critique envers la première ministre Theresa May. Hier, le Parlement a rejeté une fois encore son accord sur le Brexit. Le cardinal Pell en Australie est condamné à 6 ans de prison pour pédophilie. Notre correspondante à Melbourne était présente lors de l'audience, compte rendu à suivre. Et puis dans ce journal aussi, nous reviendrons sur cette question posée hier au Conseil constitutionnel en France. Les tests osseux sur jeunes mineurs étrangers sont-ils fiables? Non, disent déjà les associations. L'Europe décide donc à son tour d'interdire les avions du type Boeing 737 MAX dans son espace aérien et ses aéroports. Elle emboîte le pas à la Chine, l'Indonésie, l'Inde, Singapour, l'Australie. Et la mesure est déjà effective, Pierre Benazet.
Depuis hier soir 18h, heure française, l'Agence européenne de sécurité aérienne a suspendu tous les vols de Boeing 737 MAX, qu'il s'agisse de compagnies européennes ou non. Et l'agence va jusqu'à préciser qu'il s'agit de tous les vols interne, entrant ou sortant d'Europe. L'Agence européenne de sécurité aérienne a d'ailleurs décidé d'interdire les vols de deux variantes de l'avion, le 737-8 et le 737-9, bien que seul le premier modèle ait été impliqué dans les accidents d'abord de Lion Air en Indonésie en octobre, puis d'Ethiopian Airlines. Les compagnies aériennes en Europe sont encore assez peu équipées en Boeing 737 MAX. Il y a moins de 30 appareils répartis entre une compagnie norvégienne et une compagnie tchèque. Ceci a évidemment facilité la décision de l'Agence européenne de sécurité aérienne, même si certains avions de ce type ont dû rebrousser chemin dans l'après-midi.
Peu à peu, le ciel mondial se ferme donc à ces Boeing, lancés en 2017 par le constructeur américain. Deux accidents mortels ont déjà été recensés, dont le crash de dimanche dernier en Éthiopie, faisant 157 morts. De nombreux pays attendent les résultats de l'enquête, sauf aux États-Unis, où les autorités continuent pour le moment de faire confiance à cet appareil, Grégory Phillips.
Donald Trump et le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, se sont parlé au téléphone hier après-midi dans la foulée des deux messages publiés sur Twitter par le président américain dans lequel il affirmait de manière assez incompréhensible que les avions d'aujourd'hui étaient trop complexes à piloter et qu'il fallait être Albert Einstein pour y arriver. Le PDG de Boeing a donc répété au président qu'il faisait confiance à ce modèle, le 737 MAX, et que d'ailleurs la FAA, la direction de l'aviation civile américaine, n'envisageait pas pour l'instant de clouer ces appareils au sol alors que l'enquête continue. Pour Boeing, avec 5000 avions déjà commandés à travers le monde, l'enjeu économique est évidemment énorme, mais avec des millions de dollars dépensés chaque année en lobbying, le constructeur aéronautique sait qu'il peut compter sur de nombreux appuis à Washington et à la Maison-Blanche, qui pour l'instant en tout cas continue de le soutenir.
Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Les États-Unis encore et la Californie qui vient d'annoncer un moratoire sur les exécutions. Il va bénéficier ce moratoire aux 737 détenus actuellement dans le couloir de la mort de cet État, le plus grand contingent aux États-Unis. Le gouverneur de Californie, démocrate, estime que la peine de mort est incompatible avec les valeurs fondatrices de l'État américain. La dernière exécution en Californie remonte à 2006. C'est encore un non. Les députés britanniques ont rejeté à nouveau l'accord sur le Brexit. Aujourd'hui, ils doivent voter sur la possibilité d'un report de l'Union européenne, de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Un départ sans accord donc, comprenez l'option no deal. Selon le ministre allemand des Affaires étrangères, ce scénario du no deal se rapproche. Au Royaume-Uni, les travaillistes réclament toujours des élections législatives anticipées pour écarter Theresa May et son gouvernement conservateur. Ce matin, nous écoutons une députée. Elle a fait partie des conservateurs rebelles. Anna Soubry a quitté le parti il y a quelques semaines pour protester contre la gestion du Brexit par le gouvernement britannique. Et hier, elle accusait Theresa May.
Tout est de la faute de la Première ministre. Elle est responsable du malheur qui lui arrive. On l'a prévenue, on lui a donné des conseils, on a tout essayé pour lui faire comprendre la situation. Mais c'est elle qui a créé ce cauchemar. Des élections anticipées ne résoudraient pas le problème. La seule autre alternative, c'est d'organiser un deuxième référendum et il faut qu'on oblige Corbyn et son équipe à faire ce qu'ils ont dit et à soutenir ce deuxième référendum.
L'ancienne députée du Parti conservateur Anna Soubry, traduite grâce à notre correspondant Antoine Gignoux. L'ancien numéro 3 du Vatican, le cardinal George Pell, est condamné à 6 ans de prison en Australie pour pédophilie, pour des agressions sexuelles envers deux enfants de cœur. Âgé de 77 ans aujourd'hui, il risquait jusqu'à 50 ans d'emprisonnement, condamné donc finalement cette nuit à 6 ans. Les précisions à Melbourne au tribunal de Caroline Lafargue.
George Pell est resté parfaitement stoïque, épargné par les caméras qui étaient toutes exclusivement pointées sur le juge Peter Kidd. Le cardinal n'a montré aucune émotion quand le juge a détaillé le viol qu'il a commis sur deux enfants de cœur en 1996.
Il est impossible que vous n'ayez pas été conscient de la gravité de vos agressions sexuelles choquantes sur ces deux garçons. Cardinal Pell, levez-vous s'il vous plaît. Je vous condamne donc à un total de 6 ans de prison. Dont 3 ans et 8 mois incompressibles.
Présent au tribunal, le père d'un des deux enfants de cœur, qui est décédé en 2014 d'une overdose d'héroïne, s'est dit triste et déçu de cette peine de prison qu'il juge trop clémente. Un avis partagé par d'autres victimes, d'autres pédophiles qui manifestaient devant le tribunal, comme cette femme qui souhaite rester anonyme.
Pell va en prison, c'est déjà ça. Mais cela ne rend pas justice à tous ceux qui se sont suicidés ou sont morts à cause de leur traumatisme.
Le cardinal australien continue à clamer son innocence. Le jugement en appel est prévu début juin, mais en attendant, le voilà inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels. Et bien sûr, il reste en prison.
Emmanuel Macron poursuit sa visite en Éthiopie. Il y a signé hier un accord de coopération en matière de défense pour accompagner la relance de la marine éthiopienne. La France espère ainsi profiter de la récente ouverture politique et économique de l'Éthiopie. Le Parlement français a adopté définitivement la loi dite anti-casseurs. C'est le Sénat qui a voté en dernier, tard hier soir, sans modifier le texte. Il n'y aura donc pas de seconde lecture. Le Conseil constitutionnel a été saisi par l'Élysée face aux critiques de certains élus de la majorité. Saisi aussi par la gauche, elle dénonce des mesures liberticides dans cette loi. Le Conseil constitutionnel qui, hier, examinait une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, autour de cette question, justement... Les droits des enfants migrants sont-ils garantis lorsqu'ils subissent des tests osseux pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs? Un jeune Guinéen avait refusé cet examen et il avait été considéré par un juge comme majeur. 9 associations présentes hier devant le Conseil dénoncent l'article 388 du Code civil qui autorise et encadre les tests osseux depuis 2016. Cela correspond en fait à une radio de la main et du poignet gauche. Selon elle, ces tests ne sont pas fiables, elles demandent leur interdiction, Soizigbourg.
Des tests basés sur des données statistiques collectées dans les années 40 sur des enfants nord-américains de classe aisée avec une marge d'erreur située entre 18 mois et 3 ans. C'est totalement inadapté pour Brigitte Janot, avocate de l'Association pour la défense des droits des étrangers. Elle évoque un paradoxe.
Il y a une véritable confusion qui est faite depuis 20 ans. Il y a de très nombreuses instances qui alertent sur le détournement qui a été fait de ces tests, qui n'ont absolument pas vocation à établir de manière ferme un âge chronologique et la confiance qui est faite par les magistrats. On voit dès le début de la procédure des tests osseux qui sont ordonnés et qui vont devenir l'élément principal sur lequel le juge va ensuite s'appuyer avec des effets absolument terribles pour le jeune qui va se retrouver à la rue.
Lors de l'audience, le représentant du Premier ministre, Philippe Blanc, a mis en avant les garanties prévues par l'article 388. Le test osseux n'intervient que si les documents d'identité ne sont pas fiables et si l'âge donné n'est pas vraisemblable. Mais justement, le problème pour Patrice Spinozzi, avocat pour la Ligue des droits de l'homme, c'est que la Constitution ne prend pas assez en considération la valeur du doute. Lui prône une nouvelle définition de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Qu'est-ce qui doit prévaloir ? Est-ce que c'est la protection de l'enfance ou est-ce qu'au fond, c'est l'efficacité du droit des étrangers ? Ce que nous défendons, c'est que la présomption de minorité, le doute doit nécessairement bénéficier à l'enfance. Donc, tant qu'il n'y a pas de certitude, c'est l'enfant qui prime, c'est pas le droit des étrangers.
Certains juges des enfants demandent une évaluation pluridisciplinaire de la minorité avec une dimension sociale, éducative et psychologique. Le Conseil constitutionnel, lui, doit rendre sa décision le 21 mars.
Il a officialisé sa décision hier. Gaspard Ganzer est candidat à la mairie de Paris pour les municipales de 2020. L'ancien conseiller en communication de François Hollande veut être le candidat des classes moyennes et même de toutes les familles parisiennes, il le dit dans les colonnes du Parisien. Le temps de ce mercredi sera marqué par des pluies et du vent, encore parfois soutenus sur quasiment tout le pays. En fin de matinée, l'instabilité commencera à s'atténuer un petit peu sur le nord-ouest. Il fait ce matin 7 degrés à Strasbourg, 8 degrés à Paris, 9 à Bordeaux, 14 à Nice. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées et vous nous emmenez ce matin, Jacques, au Brésil, où le ministre de la Justice propose d'assouplir le cadre de la légitime défense pour les forces de l'ordre.
Oui Clara, le projet de loi est vivement critiqué, vous vous en doutez, par les experts qui rappellent le nombre déjà important de victimes dans les opérations de police. C'est ce que rapporte le quotidien au Estado de São Paulo, un article publié par Courrier International. De fait, la proposition de Sergio Moro survient dans un contexte de hausse du nombre d'homicides commis par des policiers. Le Forum brésilien de sécurité publique, une ONG qui publie chaque année un rapport de référence, a recensé 5159 victimes en 2017, soit 14 par jour, ce qui représente une hausse de 20,7% par rapport à 2016. Le ministre prévoit de modifier le code pénal pour permettre aux juges, je cite, de réduire la peine de moitié ou de renoncer à la faire appliquer si le geste est la conséquence excusable de la peur, de la surprise ou d'une émotion violente, ce qui laisse la porte ouverte à toute décision arbitraire et fait redouter une montée aux extrêmes. L'ancien député de l'État de Rio, Marcelo Freixo, qui a présidé une commission d'enquête parlementaire sur les groupes paramilitaires, estime qu'une telle politique sacrifie les agents des forces de l'ordre qui se trouvent lancés dans une guerre absurde. En 2017, au Brésil, 367 policiers ont été tués, soit un par jour. Or, la proposition de Moro ne comporte pas une ligne sur la valorisation du métier ni sur l'amélioration des conditions de travail. La brutalisation du débat citoyen enclenché par le président Bolsonaro se traduite également donc en termes de sécurité publique. Au nom du retour à l'ordre, le nouveau président nostalgique de la dictature n'a-t-il pas défendu de longue date les exécutions sommaires, demande Éric Fassin dans les pages débat de l'Humanité. Le sociologue rappelle que le carnaval a affiché cette année une opposition déclarée au discours raciste, machiste et homophobe du nouveau chef de l'État. Au défilé des écoles de samba, c'est Mangueira qui l'a remporté avec son hommage ouvertement politique à Marielle Franco, la conseillère municipale noire de Rio et militante des droits des minorités, assassinée il y a un an, presque jour pour jour, le 14 mars 2018. Le spectacle mettait également en scène l'histoire des dominations multiples qui, depuis toujours, font le Brésil. Les chars évoquaient aussi bien l'esclavage, aboli en 1888, que la dictature. Les historiens Antoine Acker et Sébastien Roseau du réseau européen pour la démocratie au Brésil estime pourtant que tout espoir n'est pas vain. La confrontation de Bolsonaro à l'exercice du pouvoir a déjà montré ses limites. Les affaires de corruption, la difficulté à arbitrer entre les différents clans évangéliques, agro-industrie, néolibéraux, militaires, etc. et l'improvisation d'un président sans programme ont déjà fait chuter sa cote de popularité de moitié. Reste que la fracture ethnique et sociale résulte d'une tendance lourde dans le pays. Le mensuel Bell Books publie l'article de Larry Rotter dans The New York Review of Books sur le livre de Lilia Moritz-Schwartz et Eloisa Murgel-Starling, Brasil, une biographie. L'élection d'un président blanc et raciste s'inscrit dans la continuité de l'histoire du Brésil, profondément marquée par l'esclavage, mais aussi par une culture de la réussite fondée sur la prédation. L'ouvrage retrace la difficile et tortueuse construction de la citoyenneté pour y intégrer l'ensemble des Brésiliens et pas seulement les riches ou les puissants. La liberté était noire, mais l'égalité était blanche, résume un intellectuel, car l'égalité et la citoyenneté étaient réservées aux élites blanches qui disposaient du droit de vote, tandis que la population qui avait connu l'esclavage devait s'estimer heureuse de pouvoir circuler librement. Les auteurs rappellent qu'environ un tiers des quelques 12 millions de captifs africains expédiés vers le Nouveau Monde ont fini au Brésil, contre moins de 500 000 aux États-Unis. Bolsonaro, que certains surnomment le Trump des tropiques, doit son ascension à l'élite financière de São Paulo, aux grands propriétaires terriens qui dévastent l'Amazonie depuis 50 ans et aux églises évangéliques. Mais ce qui l'a propulsé au sommet, c'est le soutien des électeurs de la classe moyenne urbaine, écœurés par la corruption endémique, la criminalité en hausse et le traitement de faveur réservé, selon eux, ces dernières années, aux pauvres à la peau sombre. Pour autant, le Brésil est un pays qui ne se conforme pas à l'idée que l'on se fait habituellement des rapports entre dominants et dominés, soulignent les auteurs. Les influences africaines se font sentir dans presque tous les aspects de la vie quotidienne et sont généralement un motif de fierté, même pour les plus blancs des Brésiliens. Un mélange qui a engendré une société qui se définit par des unions, des rythmes, des arts, des sports, des arômes, des cuisines et des littératures métissées, d'où ces blancs qui revendiquent un pied dans la cuisine, une expression familière clairement raciste pour indiquer que l'on possède une part d'ascendance africaine. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors les enjeux internationaux aujourd'hui autour de la visite d'Emmanuel Macron en Éthiopie.
Et oui, vous parliez d'ascendance africaine. Deuxième jour de visite et deuxième pays sur la liste de la tournée est-africaine d'Emmanuel Macron. L'Éthiopie aujourd'hui à Addis Abeba, capitale et siège de l'Union africaine. La France tente de s'insérer dans une zone en plein boom démographique et économique, mais aussi convoitée par d'autres puissances. L'Éthiopie occupe une place particulière peut-être. On voit ça avec vous, Jean-Joseph Boileau. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes conseiller économique sur les économies émergentes au club du CEPI, auteur de Chine d'Afrique chez Othilde Jacob. La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. Peut-être la France aussi avec cette donc première visite d'un chef d'État français dans un pays que la France n'a pas colonisé et qui n'a pas été colonisé. Première remarque un peu générale, c'est quand même une tournée dans trois pays d'Afrique, Djibouti, Éthiopie et Kenya, assez inhabituelle pour la France, sinon complètement inédit.
Pas vraiment, pas vraiment. On oublie que la relation avec l'Éthiopie est une relation assez ancienne. En particulier, le général de Gaulle et puis Pompidou s'y étaient rendus. Pourquoi ? Parce que la Corne de l'Afrique, c'est une zone effectivement où la France est présente depuis des années. Par contre, il y a eu ensuite un grand silence, très très grand silence, et Emmanuel Macron reprend le flambeau dans un contexte par contre qui a complètement changé. Comme vous l'avez dit, la question chinoise évidemment se pose, mais plus largement, il faut le voir comme dans le sillage des annonces qui ont été faites au moment de la visite du président Macron en Inde l'année dernière, c'est-à-dire le renouvellement d'une stratégie, ce que j'appelle un tournant Indo-Pacifique. C'est pas pour rien que l'accord de défense a été signé dans le naval. C'est l'axe central aujourd'hui de notre stratégie dans la région.
Oui, puisqu'un des premiers fruits, effectivement, de cette visite d'Emmanuel Macron, c'est cet accord de défense avec l'Éthiopie. On va en reparler. Deuxième point, juste un peu sur l'idée générale de cette tournée. Hier, à Djibouti, Emmanuel Macron a parlé de partenariat respectueux. On sait un peu ce que ça veut dire dans ce contexte, avec une critique en creux, peut-être des investissements chinois. Est-ce que la France est vraiment en retard par rapport à la Chine dans la Corne de l'Afrique, si on considère juste les investissements? Je crois que la France est quand même troisième investisseur africain devant la Chine.
Oui, par contre, il faut vraiment regarder ça d'un point de vue régional. L'Afrique, donc, est immense, c'est un continent du monde. La présence française est essentiellement concentrée dans l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle francophone, d'ailleurs, parce qu'en Nigeria, c'est assez faible. Et là, il y a, depuis quelques années, une pression très forte des milieux d'affaires, en particulier, qui, notamment, ont conduit une mission du MEDEF international l'année dernière, et qui voit bien que l'Afrique de l'Est connaît une croissance soutenue, qu'elle est en pleine transformation, et que l'Afrique de l'Ouest est un peu moins porteuse. Donc l'idée était de rééquilibrer sur le plan économique. Et ça rejoint la préoccupation de la diplomatie française, qui est de répondre à ce défi chinois dans la région, avec évidemment l'arrivée de plusieurs milliers de soldats chinois, et surtout cette ouverture de la base navale chinoise qui redistribue la donne complètement dans la région. Donc il y avait convergence entre l'économique et le diplomatique. Je crois que c'est la raison pour laquelle le président a décidé de surseoir au débat national pendant quelques jours et de faire cette tournée régionale, sachant que c'est le siège évidemment de l'Union africaine. Vous avez vu que ce matin, le président Macron va rencontrer le chef de l'Union africaine, le président de l'Union africaine. Comme par hasard, c'est donc le Rwanda qui avait joué un rôle essentiel dans l'Union africaine l'année dernière, le président Kagame, qu'il y a eu au niveau de l'organisation de la francophonie, évidemment, un tournant, puisque désormais, c'est une Rwandaise qui est à la tête de l'organisation de la francophonie. Donc c'est vraiment là un basculement en Afrique. On sort du précaré de l'Afrique de l'Ouest pour aller sur cette Afrique de l'Est.
Oui, effectivement, avec Louise Mouchikibabo toujours à l'OIF. Effectivement, là-dessus, la relation à l'Éthiopie est peut-être un petit peu particulière pour la France, parce que on le sait peu, mais c'est, paraît-il, le premier débouché économique, enfin commercial, disons, pour la France. 791 millions d'euros d'exportation l'année dernière, c'est quelque chose d'intéressant quand même.
Ah, tout à fait. Ça fait partie de ces silences en général pour en France, qui est la non-existence finalement de l'Éthiopie sur notre carte, alors que du point de vue des hommes d'affaires, on voit bien que après le silence donc de quelques années, on a eu la création d'un club d'affaires extrêmement dynamique, en particulier avec des entreprises comme Castel, Orange, Saint-Gobain, et que on a compris, je crois, qu'il y avait là véritablement, avec bon, un pays qui fait 115, 120 millions d'habitants aujourd'hui, mais surtout qui va vers 250 millions d'habitants, et une région, l'Afrique de l'Est, qui elle-même donc est en voie d'intégration, c'est très très net, et qui va représenter, d'après les données que j'ai mis dans Signifique, 500 millions d'habitants d'ici 2040, donc il y a véritablement là un enjeu de se positionner d'ores et déjà sur l'émergence de cette zone.
Oui, c'est pas rien de parler de boom démographique. Alors là-dessus, qu'est-ce que peuvent les entreprises françaises? Est-ce que, puisqu'on voit qu'une partie, disons, du désenclavement géographique de l'Éthiopie a été prise en charge, disons, financée par l'Afrique pour la ligne Addis Abeba d'Oralé jusqu'à Djibouti, ou pour l'extension de l'aéroport international d'Addis Abeba, est-ce que les entreprises françaises peuvent concurrencer sur ce plan-là ou sur une offre de services et de produits, disons-le comme ça?
Écoutez, la Chine a rempli un vide, je crois que plus largement sur la totalité de l'Afrique, c'est ce qu'elle a fait. Et en ce qui concerne l'Éthiopie, elle a joué un rôle majeur dans un pays qui n'avait quasiment pas de route. Quand j'y suis allé l'année dernière, j'étais stupéfait du changement par rapport à 15 ans avant. Il y a des routes effectivement un peu partout. Il y a cette ligne de chemin de fer étonnante qui on a l'impression de se retrouver en Chine, ballast tout neuf, voie rapide vers Djibouti, qui a coûté quoi, 3 milliards de dollars. Il y a un métro maintenant à Addis Abeba, là encore c'est les Chinois. Et puis il y a cet aéroport international qui est désormais le plus grand d'Afrique, avec 20 millions de capacités, qui a été en totalité construit par des entreprises chinoises. C'était impressionnant de voir d'ailleurs comment elles avaient organisé le chantier. On se croyait là encore dans en Chine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout à faire, et donc il n'y a pas une place pour les entreprises françaises. Elles ne concurrencent pas en réalité la Chine là où elle est présente. Elles va jouer, si vous voulez, la carte de la complémentarité. Par contre, c'est très important pour l'Éthiopie, qui commence aussi à percevoir, comme beaucoup d'États africains, la présence chinoise comme étant un peu pesante, unilatérale, notamment cette voie de chemin de fer est très peu rentable, risque de ne pas être rentable en réalité, parce qu'elle suivait plutôt la logique des intérêts chinois que la logique des intérêts éthiopiens. Et donc, ça va permettre à l'Éthiopie de trouver effectivement des partenaires qui vont lui permettre de se distancer par rapport à la Chine, d'autant plus que l'endettement vis-à-vis de la Chine est maintenant considérable. Et donc, il va renégocier avec la Chine des prêts qui ont été donnés, qui enfin prêtés, et qui s'avèrent pas rentables. Et donc, le fait que la France soit là, je pense lui donner un pouvoir de négociation plus important.
Oui, au point que le Premier ministre chinois Wang Yi a dû se justifier ou minimiser cet endettement des pays africains et éthiopiens récemment. Alors, vous en avez parlé au début de l'entretien, qu'est-ce que la France peut attendre plus généralement de sa relation avec l'Éthiopie ? Bon, il y a le partenariat culturel pour les églises de la Libella, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais par contre, cet accord de défense et notamment cette idée de développer le naval éthiopien pour un pays qui n'a pas de côte, qu'est-ce que ça signifie, c'est un pied supplémentaire dans la corne de l'Afrique, cette idée de l'Indo-Pacifique ?
C'est la preuve que, de façon intelligente, au lieu d'affronter la Chine, eh bien, il faut simplement trouver son mieux-disant et sa véritable carte dans le domaine naval. Le problème de l'Éthiopie, c'est qu'elle a perdu l'accès à la mer, effectivement, avec l'indépendance de l'Érythrée, donc elle n'a plus aucun port. Hein, et il faut qu'elle passe par Djibouti. Donc elle cherche à se diversifier. Elle souhaiterait en particulier trouver 4 points de connexion maritime vers la Somalie, à nouveau vers l'Érythrée. La négociation avance bien maintenant. Et puis il y aura Djibouti et ils en veulent un 4e. Donc la France, là, va jouer évidemment un rôle très important pour ce désenclavement naval, sachant que nous avons, non seulement sur le plan militaire, hein, mais sur le plan maritime commercial, comme par hasard dans la délégation du président Macron, le géant mondial CMA-CGM, qui d'ailleurs est très très présent en Chine, mais qui évidemment se retrouve partout en Afrique. Donc on a là, je pense, trouvé le créneau, comme on va dire, hein, le créneau qui permet de se positionner dans cette zone avec de véritables outils. Alors l'AFD est également très présente, quelque chose qui m'avait frappé.
Il y a 100 millions d'euros qui ont été mis sur la table là hier.
Oui, et puis une présence, quand j'ai visité l'équipe de l'AFD là-bas, dans l'énergie en particulier, ou l'agriculture, qui répond véritablement à de forts besoins de l'Éthiopie. J'aimerais quand même insister sur le culturel, car la visite du président de Gaulle à l'époque avait beaucoup mis l'accent également sur le culturel. On oublie que l'Alliance française d'Addis Abeba et le lycée français d'Addis Abeba sont parmi les plus importants en Afrique, sont nettement plus importants que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. C'est là d'ailleurs là que la présidente actuelle sort et qu'elle parle couramment le français. Donc le culturel, c'est pas seulement, vous voyez, une petite écharpe là orange qu'on va mettre, c'est un vecteur d'influence considérable. La Libella, évidemment, c'est le cœur de la culture tigréenne et c'est un lieu impressionnant qui a beaucoup besoin aujourd'hui d'aide pour se renouveler. Les équipes françaises sont actives depuis une dizaine d'années, donc on va là, je pense, véritablement redonner à la Libella une visibilité internationale.
Oui, avec ses 11 églises monolithes au patrimoine mondial de l'UNESCO, on aura l'occasion d'en reparler, mais merci pour vos explications aujourd'hui, en tout cas Jean-Joseph Boileau, et on renverra à votre livre Chine d'Afrique, bien entendu.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Océanie au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Voyage à travers le Pacifique à la rencontre des cultures et des peuples insulaires. De la Nouvelle-Guinée à l'île de Pâques, d'Hawaï à la Nouvelle-Zélande, l'exposition rend hommage aux créations artistiques du continent aux 25 000 îles. Près de 200 œuvres dressent le panorama de l'art d'un continent, passeur de traditions et des défis du présent. Océanie, jusqu'au 7 juillet au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, un partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins. Bonjour Guillaume Herner.
Mais oui, bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous.
Et avez-vous déjà essayé de corrompre un directeur d'université?
Alors moi non, hein, mes enfants sont encore petits, mais aux États-Unis, des célébrités sont actuellement inculpées pour l'avoir fait. C'est ce que raconte The Atlantic. C'est un scandale absolument incroyable, qui raconte idéalement le sur-sur-investissement scolaire. Alors de quoi s'agit-il? De People, donc, par exemple, une des actrices ayant joué dans Desperate Housewives, elle a dépensé des fortunes pour truquer les tests d'admission à des facultés américaines, notamment Yale ou Georgetown. Le FBI, rien que ça, a été saisi de ces manipulations, qui consistaient notamment à prêter à ses enfants des compétences dans des sports d'ailleurs que ses enfants parfois ne pratiquaient pas, car comme vous le savez, aux États-Unis, les universités se disputent les étudiants sportifs. C'est important pour la réputation des facs d'avoir des sportifs de haut niveau. Et c'est ainsi que 33 parents, 33 au moins, ont dépensé des sommes mais absolument folles, entre 200 000 et 6,5 millions de dollars. Hein, j'ai bien dit 6 millions de dollars et demi pour que leur chérubin entre dans ces facs. Un scandale pratiquement incompréhensible, parce que d'ailleurs, si on peut payer 6 millions de dollars, pourquoi tout simplement ne pas les filer à son rejeton en se disant que de toute façon, il sera rentier? Alors payer des centaines de milliers de dollars pour faire entrer son enfant dans une fac, voilà qui soulève évidemment un débat dans un pays où déjà l'accès aux facs était ultra inégalitaire. Cette escroquerie signifie qu'il n'y a même pas assez de place pour tous les super riches dans les facs américaines. Ça témoigne également du surinvestissement scolaire au sens propre. Les parents sont tellement angoissés que leurs enfants échouent, qui sont prêts à payer, du coup d'ailleurs à les mettre en risque pour qu'ils réussissent. Ça n'est pas complètement nouveau, bien sûr, vous me direz, puisqu'on se souvient par exemple que la mère ultra morale pourtant de Forrest Gump n'avait pas hésité à coucher avec un directeur d'école pour que celui-ci accepte son fils. Mais aujourd'hui, c'est général. Désormais, les Américains sont prêts à tout pour faire entrer leurs enfants au 7e ciel universitaire.